Radio Libertaire 89.4, c'est la radio sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Et nous vous proposons la rediffusion d'une émission du groupe Libertaire à la rue du 21 juin 2022, La guerre de l'attention. Bonne écoute.
Une explosion du temps d'écran à partir de l'arrivée des smartphones, et que ça constitue donc aujourd'hui l'essentiel de notre temps éveillé devant un écran. Et effectivement, ça commence très tôt avec Donc là, on a des chiffres un peu moins précis pour les âges les plus jeunes. On se base souvent dans les études de Common Sense qui est aux États-Unis. Mais.
Radio Libertaire. Ce soir, le grand soir du mardi, reçoit Yves Marie et Florence Houillot autour de leur livre « La guerre de l'attention » paru aux éditions de L'Échappée. Yves Marie et Florence Houillot ont créé l'association « Lève les yeux » qui lutte contre la surexposition aux écrans. Ils analysent en quoi la submersion des recoins les plus intimes de nos vies par le numérique et les écrans constitue la stratégie ultime du capitalisme, pour qui l'attention humaine est devenue une ressource essentielle à exploiter. À l'heure où les pouvoirs poussent à une numérisation encore plus généralisée, où en France, l'éducation nationale ne jure plus que par les écrans, comment récupérer notre attention, ce qui nous relie aux autres et au monde ? Alors, bonjour tous les deux, voilà.
Bonjour.
Donc, dans le bouquin, vous citez quelques chiffres absolument ahurissants sur les temps d'exposition aux écrans des Français, y compris à partir d'un âge tendre. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu, donner les données les plus récentes là-dessus ?
Ben là, c'est la rediffusion de l'émission.
Oui, alors... Pour ces chiffres-là, on se base notamment sur les chiffres de l'ASNAV, l'Agence Nationale de Santé Visuelle, qui a évolué à 10 heures par jour en 2019, le temps d'écran, tous écrans confondus, tous âges confondus en France. Et il était à 5h40 en 2012, donc on voit qu'il y a eu une explosion du temps d'écran à partir de l'arrivée des smartphones, et que ça constitue donc aujourd'hui l'essentiel de notre temps éveillé devant un écran. Et effectivement, ça commence très tôt avec Donc là, on a des chiffres un peu moins précis pour les âges les plus jeunes. On se base souvent sur les études de Common Sense qui est aux États-Unis. Mais voilà, ça va osciller entre... chez les moins de 2 ans, ça peut monter jusqu'à 2 heures par jour chez les plus exposés. Et ensuite, ça augmente petit à petit. On a du 4 heures par jour après. C'est une courbe comme ça, croissante, qui va jusqu'à 11h45 par jour chez les 16-24 ans, qui est la tranche la plus exposée aux écrans.
Alors, sachant que... Non, juste pour compléter... À titre de comparaison, on passe en gros 7 années scolaires sur les écrans entre 2 et 8 ans, pour se donner une idée du caractère massif et partagé, parce qu'on parle de la France, mais ça va aussi pour d'autres pays, de ce temps passé qui est du temps globalement, qui n'est pas consacré à autre chose, et donc qui est du temps qu'on ne rattrape pas.
Alors, dans votre bouquin, vous dites que les premières victimes de cette surexposition sont les enfants. Est-ce que vous pouvez nous décrire les effets qu'a cette exposition aux écrans sur les enfants?
Oui, alors c'est des effets. Ce qu'on essaie de dire dans le livre, c'est qu'on a voulu dresser quelques constats, mais que c'est impossible d'être totalement exhaustif, tant la liste est longue des maux MAUX provoqués par cette surexposition. On est parti de ceux qui sont les plus saillants, des problèmes les principaux, donc avec la réduction du temps de sommeil, parce que voilà le temps d'écran le soir qui réduit le sommeil, et donc les problèmes de santé qui en suivent, le problème de vue, le problème d'obésité, et puis bien sûr des problèmes psychologiques avec une hausse du mal-être, de l'impact sur les relations. Voilà, il y a toute la question des contenus, hein, parce que évidemment tout ne se vaut pas, donc beaucoup de contenus violents, de contenus à caractère pornographique. On a voilà, on a le problème du cyberharcèlement qui chez les adolescents est en train de devenir massif. Donc, en fait, on voit que c'est très protéiforme. Il y a tout un tas de problèmes en cascade qui émergent auprès des plus jeunes. Et donc, chez les enfants, bien sûr, aussi les troubles du langage, les retards cognitifs, en fait, généralisés, hein, avec la mémoire, l'intelligence. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui nous revient vraiment du terrain, avec les médecins, avec les écoles. On a beaucoup, beaucoup de témoignages de l'explosion de ces problèmes. Ce qui fait que nous, en tant qu'association, on est très sollicités pour intervenir auprès de parents et auprès des plus jeunes. Mais oui, c'est des ravages qui sont à la fois très documentés au niveau des études et à la fois constatés par tout le monde, en fait, sur le terrain. Quoi. Donc,
Et vous dites aussi que les ravages sont d'autant plus importants que les enfants sont issus de milieux populaires pauvres.
Oui, absolument. Nous, on intervient, enfin, l'association intervient dans les Bouches-du-Rhône, dans des quartiers dits sensibles. Il y a une corrélation assez nette entre le niveau de vie et le taux d'équipement en écran, un peu comme les autres travers, on va dire, de notre modèle libéral capitaliste en général. Donc, ça va aussi avec l'exposition à la publicité, à la malbouffe, à d'autres formes d'addiction. Donc, on a, nous, des témoignages de gens qui... pour obtenir le calme chez eux, sont obligés de donner des écrans à leurs enfants, qui sont alors qu'à l'inverse, il y a une hypocrisie terrible là-dedans, c'est que les classes plus favorisées ont accès aux discours de prévention, ont plus d'espace, plus de moyens pour faire autre chose, et la caricature de ça, c'est vraiment les familles, des gens qui conçoivent ce qu'on dénonce dans le livre, la captologie, avec vraiment les interfaces qui rendent le plus possible addict, qui, eux, se préservent bien des écrans et font en sorte de payer des écoles très chères sans qu'il y en ait. Donc, la fracture sociale est inversée en ce sens-là. On est vraiment dans une mécanique, effectivement, de suréquipement et de surprésence des écrans chez les plus pauvres.
Et cependant, donc, tout ce que vous décrivez, ces effets délétères sur les enfants, en particulier sur le plan cognitif, où je crois qu'on peut craindre... un amoindrissement des facultés cognitives, tout ça c'est quand même bien connu maintenant, et cependant, on a un gouvernement, et en particulier un ministre de l'Éducation nationale, qui pousse à fond sur une utilisation encore plus massive des écrans. Comment on peut expliquer ce paradoxe épouvantable?
Ouais, on est bien d'accord, c'est assez surréaliste. Hein. Ouais. C'est assez surréaliste. En fait, ça donne une idée du niveau de fascination collective pour le numérique et de la fascination qu'on peut avoir nos élites pour la technologie numérique. Et puis aussi du pouvoir d'injonction de ces industries, parce qu'elles ont une capacité d'influence énorme sur les décideurs politiques. On avait les Assises de l'attention samedi à la Bellevilloise, où un député européen nous racontait la force de frappe du lobbying des GAFAM à Bruxelles. C'est pour ça aussi que dans les politiques publiques européennes, il y a l'idée que l'avenir de l'éducation passe par le numérique. Et voilà, ça ruisselle après, entre guillemets, derrière, dans les politiques publiques de tous les États et de toutes les collectivités, en rencontrant aussi une fascination collective quand même sur cette idée que la technologie est nécessairement un progrès et nécessairement un mieux. Et donc, en dépit du bon sens, en dépit des constats de terrain qui sautent aux yeux de tout le monde, on continue avec cette idée que ça peut être pédagogique, que ce sera un plus, que ça va individualiser le savoir, que ça va faciliter, fluidifier, enfin, tout le blabla... technophile habituel qui continue d'affronter la réalité des faits. Quoi.
Ça va même plus loin parce que aujourd'hui on dit si ça ne marche pas le numérique, parce qu'en réalité on se rend compte que ça ne marche pas strictement du point de vue pédagogique, c'est qu'on n'est pas allé assez loin, c'est qu'il faut équiper davantage, c'est qu'il faut aller encore plus loin dans la numérisation. Donc au lieu de se dire on est arrivé à un moment où on se rend compte que ça ne marche pas, il faudrait stopper, nous dans nos mesures on souhaite ardemment et on défend l'idée d'interdire les écrans dans les crèches, les maternelles, aux primaires, et puis de les réserver à l'enseignement en informatique, parce que c'est pas en étant sur des écrans de divertissement qu'on apprend à comprendre comment ça fonctionne. En réalité, ce qui nous est opposé, c'est qu'il faut aller encore plus loin. Donc c'est vraiment un paradoxe poussé vraiment à son extrême en matière d'équipement.
Et est-ce que tous les deux, avec votre association Lève les yeux, on va revenir en détail, hein, mais est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir comme interlocuteur des gens du ministère de l'Éducation, et comment ils peuvent soutenir ce langage? C'est ahurissant, quoi.
Ouais, on a essayé, hein, pour vous donner l'histoire, ils ont organisé les états généraux de l'éducation par le numérique. Alors on voit qu'il y a vraiment aucune honte à utiliser des termes issus de la Révolution pour accentuer la numérisation de l'éducation. Et donc, lors des états généraux de l'éducation par le numérique, ils ont invité les acteurs de ce qui s'appelle la EdTech, donc des technologies éducatives. Ils ont eu des cadres de l'administration de l'éducation nationale, quelques représentants des enseignants, mais très peu, et puis aucune association qui travaille sur le sujet, comme nous. On leur a écrit pour demander à être présents, on ne nous a pas répondu. Donc, globalement, ils ne veulent pas vraiment... Je pense qu'ils savent ce qu'on a à dire, ils se rendent très bien. Notre discours, on est quand même publié, on a des tribunes qui sortent, ils savent ce qu'on... On leur envoie nos propositions, on a envoyé nos propositions à tous les candidats au départemental et au régional, enfin... Mais non, ils veulent pas nous entendre. Hein. Ils sont sur une poussée numérique. C'est un moteur de croissance. C'est l'avenir. Ça se discute pas.
Ça commence à monter, pardon, juste sur les profs notamment, parce que nous, on en a aussi dans notre asso. On en a pas mal qui témoignent de leurs difficultés sur le terrain, parce que c'est un des métiers où le taux d'équipement en plateforme numérique et autres services divers et variés a explosé ces dernières années. Donc aujourd'hui, un prof tout niveau, il a Pronote pour saisir les notes, la gestion des absences se fait sur une autre plateforme, l'accès au contenu numérique. Enfin, nous, on défend le fait d'arrêter de remplacer les livres scolaires par les écrans. Eux sont prisonniers de ça en partie et témoignent, mais ils sont exposés de plus en plus à des difficultés vis-à-vis de leur hiérarchie. Ils s'exposent à des blâmes, ils s'exposent à des sanctions. Donc, qui plus est quand la communauté des parents n'est pas forcément toute derrière ça, ni très conscientisée, ni prête à agir. C'est vrai qu'ils sont dans des situations hyper inconfortables pour eux, quoi, de devoir lutter contre un système qui les équipe encore plus qu'avant.
Oui, donc, effectivement, le numérique est absolument partout. On le retrouve dans le social. Aujourd'hui, les gens doivent saisir leurs informations sur les plateformes. On le trouve dans la santé, puisque aujourd'hui, la carte vitale est réactualisée avec tout un tas de compléments d'informations. On le trouve dans l'éducation nationale, on le trouve dans l'enseignement supérieur, on le trouve absolument partout. La question que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont les enjeux politiques de ce choix, en fait, puisque le numérique remplace le rapport humain, le rapport social et le lien social. Donc, quels sont les enjeux, en réalité? Parce que c'est, a priori, un non-sens. Donc, que se passe-t-il?
C'est une vaste question, hein. Il y a une promesse à travers le numérique qui est celui... d'une optimisation et d'un contrôle accentué des citoyens et des individus. Donc là-dessus, il y a quand même des attraits très directs au gouvernement à pacifier. On parlait des différences sociales, c'est une forme de pacification sociale. Si les gens sont 8 heures par jour sur les écrans, ils ne sont pas en train de faire autre chose. Nous, on essaie de politiser la question, c'est-à-dire que... il y a une idéologie derrière, il y a à la fois celle des entreprises des GAFAM, assez identifiée au final, même si elle n'est pas forcément perceptible. C'est vraiment une idéologie qui puise ses racines dans les courants libertariens, qui croit dur comme fer que la technologie sauvera l'homme des incertitudes liées à l'organisation politique, au péril climatique, à tout ce qui nous entoure. Et puis, à la fois, on va dire, les enjeux plus à court terme des États, en termes de contrôle, en termes d'économie. Quand on dit qu'il y a des écrans, c'est aussi qu'il y a moins de profs. Quand on dit qu'il y a des bornes dans les gares, c'est aussi qu'il y a moins d'employés dans les gares. Et au lieu, on milite beaucoup pour qu'il y ait un accès partagé et que les gens aient le choix, c'est-à-dire pas forcément maintenir un contact humain. Et au lieu de ça, c'est vrai qu'on a plutôt des formations à outrance pour le numérique. On essaie de rattraper ça en proposant du numérique partout, dans tout le pays, alors qu'en réalité, les gens demandent simplement à pouvoir parler avec un humain, se déplacer. Et donc on est dans cette situation-là aujourd'hui.
Est-ce que, on pourrait se faire taxer de complotisme, enfin il n'en faut pas beaucoup pour être taxé de complotisme, mais est-ce qu'on peut admettre que les pouvoirs actuels ont intérêt justement à ce qu'il y ait une génération, des générations d'enfants avec des facultés cognitives quand même largement en baisse, avec des générations de crétins éventuellement malléables, ou je ne sais pas, enfin, est-ce qu'il y a un dessin.
Ouais. Moi, à titre personnel, en tout cas, oui. je le pense pas. C'est-à-dire que Alors, après, on va peut-être me dire que je suis naïf, mais moi, je crois pas qu'il y ait quelconque dessin du côté de nos dirigeants de vouloir que leur peuple soit moins cérébré, etc. Je crois que l'école républicaine est depuis de nombreuses années orientée vers les besoins économiques. Puisque je pense qu'effectivement, les politiques publiques sont toutes orientées vers la recherche de la croissance. Donc c'est l'idéologie de la croissance à plein. Et donc on apprend à l'école, on se prépare à être des bons soldats de l'industrie de demain. Et donc l'industrie de demain, ce serait le numérique. Bon. Et puis je pense qu'il y a aussi une grande naïveté, une grande méconnaissance. Ils se bercent d'illusions, ils croient dans toutes ces promesses de fluidité, d'efficacité que le numérique promet. J'imagine pas qu'il y ait des gens qui... Enfin, je pense quand même malgré tout que nos dirigeants politiques aspirent quand même à élever un petit peu le niveau éducatif de leur population. Enfin, en tout cas, j'ai envie de croire à ça encore.
Je rebondis sur la question d'Elisabeth. S'il y a captation de l'attention, c'est ce que tout votre travail montre, à ce moment-là, quid de la pensée ? Parce que ça me paraît antinomique. Où on apprend aux gens à penser, à ce moment-là, on va cultiver la liberté, le sens de la liberté chez eux, l'autonomie, la capacité à prendre la distance, à comprendre, à entendre, etc., et à questionner. Mais tout votre travail tend à montrer le contraire.
Qu'en pensez-vous ? Clairement. C'est un des principaux risques et paradoxes face auxquels on se trouve aujourd'hui. Politiquement, enfin, je reviens juste sur la question d'avant, quand on disait nos responsables politiques, nous ce qu'on montre dans le livre, c'est qu'on est tous quelque part un peu agents de ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est une guerre dans les deux sens, on est à la fois victime et agent, parce qu'on est tous équipés, on poste des contenus, on réagit, tout est fait pour qu'on soit dans la saillance, dans une forme justement de défaite du débat contradictoire long. C'est pas pour rien que le débat public a migré sur Twitter, c'est pas pour rien que Facebook et les réseaux sociaux valorisent les contenus saillants, violents, émotionnels, etc. Peut-être qu'on en parlera plus en détail. Nos politiques sont prises dans ce jeu aussi. À partir du moment où on est une personnalité publique, on est obligé d'exister. Les élections se jouent en ligne, le marketing politique joue à plein. Certaines élections dans d'autres pays basculent parce qu'on arrive à faire bouger une catégorie d'indécis en leur proposant des contenus ciblés sur Internet et sur les plateformes sociales. Donc, il y a une course à l'armement numérique en période d'élection, on le vit en ce moment aussi, face à laquelle on est plutôt démuni en tant que citoyen. Donc, c'est sûr que ça ne prête pas au débat contradictoire, ça prête au clash constamment. Et puis, le mouvement est tel et les plateformes sont si puissantes économiquement que tous les acteurs médiatiques, on en parle aussi dans le livre, sont quelque part... pour les principaux liés à eux, c'est-à-dire qu'on est dans des secteurs très concentrés où la publicité a été siphonnée par les plateformes. Donc les revenus viennent aujourd'hui d'industriels, des médias au sens large, qui construisent leurs débats et qui construisent leur propre captologie, on va dire, sur les mêmes principes. Donc que ce soit dans la télé, dans la presse, on voit bien que ça... On, on souffre de ça. Et du coup, ce qui est valorisé, c'est la parole saillante, émotionnelle, courte, qui va être consommée rapidement pour des logiques d'audience et pas du tout, effectivement, une forme de pensée plus élaborée qui existe par ailleurs. Je veux dire, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a plus aucun média indépendant ni possibilité de s'exprimer. Mais c'est plus difficile à trouver. En tout cas, ce n'est pas sur les plateformes qu'on trouve facilement.
Alors là, Florent, tu viens d'utiliser le terme de captologie. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente cette discipline? Comment elle est née? Vous parlez de il y a 40 ans à Stanford, si je ne me trompe.
Voilà, ça fait quand même maintenant longtemps que ça existe. C'est une discipline qui mêle à la fois des considérations de informatique, de développement commercial avec du marketing, et puis de recherche en sciences comportementales et en sciences cognitives. Donc ça veut dire qu'on a aujourd'hui des étudiants dans les universités les plus prestigieuses qui deviennent salariés des grandes boîtes de la Silicon Valley, qui sont spécialisés dans une façon de... donc captologie, c'est Computer as Persuasive Technology, la technologie persuasive. Donc dans ces deux mots, vous avez tout est dit, hein. Comment orienter les actes, comment conditionner de façon plus ou moins fine et visible les actes des personnes qui consomment les services numériques. Ça regroupe toute la conception et le design d'interfaces faites pour précisément arrimer les gens, leur faire consommer dans le temps, s'adapter à la façon dont les gens consomment les contenus. C'est une différence avec la publicité avant. Et avec la réclame, on va dire, où on n'était jamais sûr de ce qu'on faisait, c'est-à-dire qu'on dépense du marketing, on présente des produits, de la publicité, et puis on estime un gain indirect difficile à évaluer. Là, la différence, c'est que les algorithmes travaillent en continu et qu'on peut modifier, mesurer constamment. Donc c'est aussi une science de la mesure qui réduit forcément... on parlait de la façon de penser, mais qui réduit assez largement, et de l'idéologie des plateformes, qui réduit largement la façon dont on va essayer de modéliser les actes à une forme de binarité informatique. Un des grands ponts de... On parle de Chris Anderson, qui dirigeait une revue qui s'appelle Wired, qui disait « on n'a plus besoin d'histoire, maintenant la théorie c'est fini, on a les algorithmes, la mesure, on fait des corrélations entre ça, et ça va nous permettre de décider de la suite, c'est-à-dire de prévoir la suite de façon fine. » Donc c'est ça la captologie, c'est la science de la captation de l'attention à des fins commerciales. Aujourd'hui, c'est un marché dérégulé qui fait l'objet d'une exploitation industrielle avec des rentes faramineuses. C'est les entreprises les plus riches de la planète, il y en a quelques-unes, les gens les mieux payés de la planète qui influencent les actes de milliards d'autres, parce que ça vaut pour tout le monde, pour le coup, sur tous les continents.
Et ces mécanismes de captation de l'attention, j'imagine, se fondent aussi sur la neurologie. Est-ce qu'on étudie aussi les mécanismes biochimiques, oui, bien sûr, ouais. Du cerveau, pour savoir comment accrocher
Ouais, bien sûr. Des best-sellers en la matière, ça s'appelle Hooked, donc c'est vraiment l'hameçon. C'est le principe, on est comme des petits poissons avec des grands filets qui viennent comme ça nous ramasser. Nous, dans le livre, on part d'une grille de lecture d'un scientifique qui s'appelle Jean-Philippe Lachaud, qui essaie d'expliquer ça assez simplement. Et donc, l'attention est une notion, nous, qui nous importe beaucoup parce qu'elle est très large. Et la réduire à une économie, à une captologie, c'est précisément essayer de la déconstruire pour jouer sur des régimes attentionnels. On parle de la saillance, de l'habitude, de l'émotion et de la concentration.
Vous pouvez définir un peu ce que c'est que ces trois régimes de l'attention
Alors, le premier régime, c'est vraiment celui de l'attention saillante et de l'habitude. C'est ce qui fait qu'on fait gaffe quand on traverse la route, quand il y a un bruit fort, un signal, une couleur rouge. Donc, la caricature de ça, c'est le gros bouton qui clignote sur Internet, qui vous dit « abonnez-vous, cliquez ici pour rentrer », etc. Alors que celui pour sortir ou pour changer est tout petit, caché, et il faut le trouver, c'est compliqué. Et on parle de friction en design informatique. Donc l'attention saillante, elle est l'objet d'un bombardement attentionnel constant par la publicité, que ce soit les affiches, mais aussi les écrans publicitaires animés, et puis le web. Le deuxième régime attentionnel, c'est celui de l'émotion. Donc là, c'est tout ce qui va venir vraiment stimuler le désir, faire qu'on commente, qu'on donne son avis, être dans la quête de récompense. Donc nous, on adore, le cerveau adore ça. C'est un régime qui fonctionne à plein sur les plateformes sociales, les réseaux sociaux, parce que, et là, c'est la civilisation du like, du clash, de la violence, voilà. Et le troisième régime, qui est celui qui souffre le plus, c'est notre attention exécutive, Donc toujours pour parler des termes de Jean-Philippe Lachaud, c'est vraiment l'attention qui nous sert à nous concentrer, qui consomme beaucoup d'énergie et qui se réduit au fur et à mesure que les sollicitations et les boucles de rétroaction se font de plus en plus rapides. Donc ces trois régimes, on les a tous, on les équilibre comme on peut. La difficulté, c'est que dès qu'on est, et surtout pour les petits dont on parlait avant, la consommation de contenu sur Internet entraîne des déséquilibres jusqu'à l'addiction. Et donc on a vraiment des enfants qui parlent plus, qui se concentrent plus, qui sont insensibles à des contenus. Dans l'asso, on est très sensible à la question d'empathie. C'est aussi une des façons qu'on a eu de rentrer dans le sujet.
Vous parlez d'une chercheuse américaine, Turkle, je ne sais plus son nom,
ouais,
je
l'ai noté quelque part, ouais.
Voilà, c'est ça, qui a fait des recherches où elle a prouvé que la surconsommation des écrans diminuait l'empathie, les capacités d'empathie.
Oui, bah, nous, c'était à vrai dire un des sujets qui nous a fait rentrer dans ce thème, quoi, qui nous a fait nous intéresser à cette question, quand on s'est mis à constater que les gens faisaient moins attention les uns aux autres, dans les bars, dans la rue. Voilà, moi, c'était en Birmanie à l'époque où j'ai eu un peu ce choc émotionnel, ou en voyage ailleurs. Et puis, on voyait la même chose en France, à Paris. Et donc, il y a ce livre qui s'appelle Seul Ensemble, donc Sherry Turkle, qui est une chercheuse du MIT aux États-Unis, qui à la base était plutôt pro-technologique, mais qui en tout cas faisait de la recherche en anthropologie sur les effets de la technologie. Et donc, sur ses étudiants, elle a mené notamment une étude sur la question de l'empathie, et elle mesure que l'usage intensif des réseaux sociaux, donc elle évalue à une baisse de 40% l'empathie. Alors, bon, c'est toujours des chiffres un peu à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, un effet vraiment notable et significatif. Voilà, et qu'on comprend notamment parce que, à force de réduire l'interaction à un échange virtuel, typiquement pour annuler un rendez-vous, c'est l'exemple qu'on prend souvent, annuler un rendez-vous avec un petit texto « désolé, je peux pas », ça cause beaucoup moins de friction émotionnelle que ne serait-ce qu'un coup de téléphone dans lequel on entend une voix déçue au bout du fil qui dit « ah bon, bah d'accord, ok, tant pis ». Et en fait, on réduit ces frictions émotionnelles par des messages comme ça à distance, et petit à petit on se déshabitue de l'échange humain avec tout ce que ça implique, quoi, de connecter à l'émotion de l'autre.
Là, je fais une petite incise, mais au moment de la pandémie, quand on était tous confinés, isolés les uns des autres, etc., on a beaucoup dit, il y a eu beaucoup de tribunes dans les journaux pour dire que le contact humain, c'était quand même vachement important, que ça allait être génial, quand les gens allaient se retrouver, etc. Moi, j'ai eu l'impression exactement inverse, c'est-à-dire qui est plutôt en relation avec ce que tu dis, à savoir que le contact humain, pour beaucoup de gens, était devenu gênant, était devenu encombrant, et que cette époque de pandémie a presque été, pas du tout aussi pénible que ce qu'on a bien voulu nous dire. Je pense que c'était plutôt un cliché que de dire ça.
Je t'en prie, je ne vais pas te... D'ailleurs, le masque est vraiment l'interface entre soi et le monde, près de soi. Et en fait, là, par exemple, quand j'ai discuté avec un certain nombre de personnes qui disaient, mais en fait, moi, je continue de mettre le masque, et puis c'est pas si mal que ça, finalement. Ça nous protège, etc. Mais derrière ça, il y a comme une protection. L'autre est devenu celui par qui le malheur peut arriver, voire la mort. Ça a été présenté comme ça à la télévision. Ça a été, voilà. Et donc, du coup, l'autre est devenu un danger. Et ce que vous dites est terriblement inquiétant, évidemment, parce que là, on assiste vraiment à une, je ne sais pas ce qu'il faut dire, soit une forme de déshumanisation, soit une rupture fondamentale du lien social, soit les deux.
Bah oui, nous on parle d'émergence de modification anthropologique et d'une forme d'homo numericus, quoi. Donc vraiment, alors c'est dur de juger, je veux dire, c'est des questions très vastes, mais en tout cas, c'est vrai que ces caractères montrent l'émergence de réflexes qui sont très associés à une forme de confort individuel, de fluidité dans la vie. Ça joue à plein de points de vue, il y a le point de vue social, le point de vue politique. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans des existences individuelles fortement numérisées. d'une industrie de service qui facilite leur vie quotidienne de premier abord, c'est-à-dire que on me livre, je commande, je donne mon avis, ça permet plein de choses, c'est plus fluide, c'est plus rapide. On cite souvent un écrivain qui s'appelle Alain Damasio qui parle bien du techno-cocon, donc c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est quelque chose qui nous enferme dans nos individualités, même à l'échelle des familles. Les moments les plus choquants, c'est quand des parents sont eux-mêmes dans cette bulle et que leur enfant est seul à côté, ou que chacun est dans ses bulles vraiment côte à côte sans du tout communiquer.
Fort clos.
Voilà, donc c'est clos, c'est fluide, c'est rassurant, parce qu'on maîtrise, on pense maîtriser, alors qu'en réalité, on ne maîtrise absolument pas ce qui est mis sous notre nez et la façon dont ça fait appel à nos désirs. Et donc, on a une forme vraiment de mouvement qui nuit à l'action politique, à l'engagement. Enfin, on montre qu'on est tous mobilisés parce qu'on est tous abreuvés d'informations, de contenus violents. Et alors qu'en réalité, on a tendance à devenir insensible, on a tendance à être paralysé dès qu'il s'agit d'aller manifester, dès qu'il s'agit d'aller s'engager. Les formes de collectivité souffrent beaucoup de ça. On le voit dans les lieux de collectivité. Yves parlait des bars, des restos. Nous, on a un label de lieux déconnectés où, au contraire, on engage les gens à partager loin des écrans, donc, et on voit bien les difficultés que tous ces gens attachés à ces espaces ont aujourd'hui, parce qu'il y a les écrans de télé, le smartphone, bientôt les objets connectés. Donc imaginez avec les objets connectés le tremblement de terre qui va arriver, c'est-à-dire qu'on va avoir des existences tissées d'outils numériques qui vont produire de la donnée, que seules des grosses entreprises pourront analyser, et puis vendre, et puis continuer à faire des profits dessus. Et leur pari, c'est un peu une forme de sécurité, quoi. C'est une forme de confort sécurisé, avec des barrières. La question climatique pourrait être, grâce à la croissance verte, résolue par la technique. Les questions des grandes migrations aussi. Donc on aura vraiment comme ça une imbrication, c'est peut-être un peu pessimiste, mais en tout cas c'est des tendances quoi, qu'on observe du point de vue social, politique et même anthropologique.
On va faire une première pause. Radio Libertaire 89.4 et nous sommes avec Yves-Marie et Florence Souillot pour leur livre « La guerre de l'attention » paru aux éditions de L'Échappée. Alors, dans le bouquin, l'une des originalités du bouquin, c'est que vous dites que l'attention devrait être préservée comme une ressource aussi précieuse que l'eau ou l'air. Vous en parlez vraiment comme... oui, voilà, comme d'une ressource à préserver, à sauver, à restaurer. Et vous dites que c'est... vous associez attention et écologie. Pour vous, pas d'écologie sans attention. Est-ce que vous pouvez développer ça?
Oui, alors... ce qui est très intéressant, effectivement, c'est de constater que le capitalisme associé à la technique s'en est pris aux différentes ressources naturelles, hein, l'eau, les sols, l'air, il a été puisé un peu partout, et que maintenant, il s'en prend aux esprits humains, littéralement, via l'attention, nos capacités sensorielles, et puis nos émotions, hein, sur on voit aussi la conjugalité, les relations amoureuses, les relations amicales, la sociabilité, tout est colonisé par ces applications. Donc le parallèle est quand même assez frappant. Et donc de la même manière que dans le projet de transition écologique qui devient impératif quand on constate la gravité de ce qui nous fait face, dans le projet de transition écologique, on sait qu'il va falloir protéger les sols, protéger l'air, protéger l'eau, et de la prédation des entreprises aidées par la technique. Et donc, de la même manière, il faut qu'on puisse protéger l'attention. Voilà. Et alors, on part un petit peu de cette idée que, en protégeant l'attention, peut-être que ce sera un peu le début d'une reconquête, finalement. Est-ce que ça pourrait pas... on utilise un peu l'hypothèse d'Ivan Illich, qui dit qu'il pourrait y avoir... L'inversion politique pourrait se faire sur un excès, sur une crise ouverte entre l'homme et l'outil. Et là, peut-être que le smartphone aurait été l'outil de trop, l'excès de trop, l'excès du capitalisme qui aurait été jusqu'à vouloir aspirer la sève humaine dans cet outil. Eh bien, peut-être, nous, on a envie d'y croire que peut-être, enfin, il y aurait une sorte de rejet massif de toute cette extraction de la sève humaine. Et peut-être que les gens, petit à petit, vont se séparer de leur smartphone et de leur pratique numérique et qu'on va amorcer comme ça quelque chose, une transition politique. Voilà. C'est un peu le chemin qu'on essaie d'esquisser.
Et ce n'est pas une lubie, ni, parce que c'est un terme mobilisateur, métaphorique, c'est la protection de l'attention. En réalité, c'est des sujets sur lesquels aujourd'hui des juristes travaillent déjà. Des profs, des personnes de la société civile. Donc le droit à la protection de l'attention, il est en train d'être rédigé par des gens dont c'est le métier. Et l'idée est que ça puisse servir de base comme ça, une série de mesures destinées à protéger notre attention. On en défend quelques-unes pour vous donner des exemples un peu concrets. Par exemple de ne jamais faire appel au biais cognitif sur les plateformes. Donc on parlait tout à l'heure de la façon dont inconsciemment tous ces réflexes sont en train d'être on s'habitue à des choses de façon inconsciente. Et aujourd'hui, vous avez des textes de loi qui sont clairement destinés à protéger l'attention des plus petits, à ne pas avoir de publicité ciblée pour les enfants, pour les mineurs sur les plateformes. Pousser l'interopérabilité, donc c'est un mot technique pour dire qu'en gros, on doit être libre sur Internet des services qu'on utilise, on ne doit plus être enchaîné dans des prisons de verre comme on l'est aujourd'hui. Interdire la pub ciblée, interdire les biais cognitifs, tout ça, voilà, c'est des mesures un peu plus concrètes aussi de régulation qui peuvent être abritées par cette idée du droit à la protection de l'attention.
Alors, votre association lutte très, très concrètement sur cette restauration de l'attention. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de cette assoce? Quand est-elle née? Comment est-elle née? Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ça? Comment ça marche?
On en parlait un petit peu tout à l'heure. Moi, de mon côté, c'est venu de mon choc émotionnel en Birmanie, où j'ai vécu 4 ans. Et donc, en 2014, est arrivé le réseau 4G qui a recouvert le pays, des puces téléphoniques qui sont passées de $500 à 50 centimes, et tout un pays qui s'est équipé. Et voilà, j'ai littéralement vu un pays baisser les yeux. se faire happer par ses smartphones et voilà, jouer moins à la guitare dans la rue, être moins en relation, moins souriant. Ça m'a je l'ai vraiment vécu comme une sorte d'agression. On brisait un peu la magie du pays dont j'étais tombé amoureux. Voilà, donc ça, je pense que c'était de mon côté un peu le choc. Et puis j'ai voyagé, j'ai vu un peu ça. Florent racontera peut-être, mais je pense qu'il a vécu des choses un peu similaires depuis Paris. Et derrière, on s'est réunis, on a lancé l'association donc en juin 2018. Au départ, sur la convivialité, sur le reconquête de la convivialité, un petit peu, pas mal inspiré aussi par les travaux des convivialistes, et donc l'idée des soirées sans smartphone, etc. Un label de lieux déconnectés. Et petit à petit, on a été très sollicités pour l'éducation populaire, parce que comme les demandes, comme le problème est de plus en plus flagrant et croissant sur le terrain, eh bien, donc on a fait de plus en plus appel à nous.
Mais qui vous sollicite ? Qu'est-ce que vous, enfin, qui vous sollicite et pour quel type d'action?
En fait, à peu près tout le monde, à vrai dire. Ouais. comme le problème se pose partout, oui. On est vraiment sollicité de toutes parts. Écoles, collèges, lycées, centres sociaux, entreprises, administrations, crèches. On est sollicité de partout. Alors nous, on a dû prioriser un petit peu et on s'est concentré pas mal sur collèges, centres sociaux, les parents, les jeunes. Voilà, et là on a aussi des interventions en entreprise, on fait aussi des conférences. Voilà, on commence à essayer d'élargir un petit peu, mais voilà, de se concentrer sur la jeunesse.
Mais concrètement, comment ça se passe? Par exemple, il y a un établissement scolaire, qui va décider de faire appel à vous? Pourquoi? Enfin, c'est... Voilà, j'ai...
Bah, c'est assez simple, enfin, oui. ça vient des parents.
Ça vient des parents, oui.
Ça peut venir, oui, des parents, ça vient de certains profs, ça vient des directeurs d'établissement. Enfin, il y en a beaucoup qui sont quand même attachés. Enfin, tous sont confrontés au problème aujourd'hui, quoi. Je veux dire, tous se posent la question avec des classes où voilà, c'est devenu un combat quotidien, quoi. Donc, il n'y a pas tant d'assauts que ça aujourd'hui là-dessus. Donc, nous, on a des formats d'ateliers pour sensibiliser, pour libérer la parole, pour ne pas culpabiliser. On a créé un jeu de société qui s'appelle Planète des Connexions, où on essaye de, comme ça, d'éveiller un petit peu la langue et puis les échanges sur la question de la déconnexion, même pour les plus petits, hein. Donc, comme ça, une pédagogie, notre angle, il est vraiment d'être sur le terrain, de pas moraliser ou de pas être, voilà, d'essayer de donner des clés de compréhension et puis de libérer la parole, parce que comme on est tous addicts, on est tous un peu emprisonnés dans quelque chose, et quand on en parle, tout d'un coup, les langues se délient, les parents, les élèves reprennent conscience de certaines choses, sont souvent très conscients de ce qui se passe, mais en tout cas, ça permet de prendre conscience. C'est le premier moment, comme on est tous, on participe de ce qui se passe, si on ne prend pas conscience, et si on ne se déprend pas à un moment de l'écran, et si on ne reprend pas de la distance, si on ne se décolle pas des écrans, on n'y arrivera pas. Donc c'est pour ça que ces ateliers sont une forme de plaidoyer de long terme pour nous, et vraiment c'est là qu'on tire, et le livre part de là, quoi. C'est vraiment le travail de terrain dans les écoles au quotidien.
Donc on vous demande de venir dans une classe,
ouais, ouais.
Et donc vous faites parler les élèves.
Voilà. Oui, on a mis en place toute une pédagogie dédiée. Donc il y a eu une année de travail de réflexion à plusieurs personnes. La création de ce jeu de société qui est basé, donc c'est un memory avec des situations avec et sans écran, et puis des pièges qui se glissent au milieu. Donc derrière, ça fait des situations avec et sans écran qui permettent de déclencher des conversations autour de la place des écrans dans leur vie quotidienne. Il y a un petit quiz, il y a tout un tas de petites animations plus ou moins ludiques sur 2 fois 2 heures dans les collèges. Ça, c'est le classique qu'on fait dans les Bouches-du-Rhône. On est aussi en train de développer des contenus sur l'éducation aux médias, plutôt pour les lycéens. L'impact d'Internet et des réseaux sociaux sur l'accès à l'information et la désinformation. Donc voilà, on essaye de chaque fois, à travers des modules ludiques, de déclencher de la discussion et de la prise de conscience, des défis des connexions. On est toujours en train d'encourager à ce qui passe des moments déconnectés et qui se retournent dessus pour voir quel effet ça fait sur eux. Voilà, là par exemple, on lance aussi des projets pilotes à Marseille de défis déconnexion à l'échelle On l'a fait à l'échelle d'un quartier dans le 14e arrondissement, donc dans les quartiers nord. Et là, on va le faire à l'échelle d'un collège, du collège Vieux-Port à Marseille, dans le centre.
D'un quartier, c'est-à-dire où tout le quartier est censé se déconnecter, enfin couper son téléphone, j'imagine, pendant je ne sais pas combien de temps.
Ouais, alors quand on organise là, par exemple, ce qu'on a organisé dans le 14e arrondissement, c'était un certain nombre de classes qui étaient concernées, donc toutes les classes de 6e du quartier et toutes les classes de CM1, CM2, qui ont participé pendant une semaine. Ils devaient passer le moins de temps possible sur leur écran. Le zéro, ça n'existe même plus, en fait. Aujourd'hui, là, c'est comme si vous leur disiez, enfin,
de ne pas respirer.
Ça n'existe pas. En revanche, baisser le temps, mesurer, noter combien de temps on y passe. Réfléchir aux effets que ça nous fait d'y passer moins de temps, en impliquant les enseignants, en impliquant les parents. Là, ça crée quand même une dynamique. Il y a eu des médias qui s'y sont intéressés. Il y a eu une dynamique à l'échelle d'un territoire. On a noté des vraies baisses significatives dans les temps d'écran, un vrai enthousiasme, une forte demande de recommencer l'année prochaine. Donc c'est quand même très encourageant. C'est des choses qu'on n'a pas inventées, nous, hein, qui se font depuis la fin des années 90. Il y a des associations qui font ça en France, au Canada, et avec, à départ, c'était uniquement pour la télé. Et puis là, maintenant, c'est en train de prendre une telle ampleur que la demande explose, quoi. Vraiment, on est très sollicité là-dessus. Et peu d'associations le font. Donc si des auditrices ou des auditeurs veulent se lancer là-dedans, il y a de quoi faire.
Vous êtes combien dans l'association à animer ce genre d'action? C'est juste vous deux ou bien vous êtes...
Non, on se répartit entre Marseille et Paris. Les ateliers, c'est surtout à Marseille, Bouches-du-Rhône. Donc Yves, une équipe d'intervenants. Donc il y a, je crois, 5 ou 6 intervenants aujourd'hui. On en embauche d'ailleurs d'autres. On parlait de la demande qui augmente. Donc il y a cette équipe-là vraiment sur l'éducation populaire. Et puis nous, le reste de l'équipe est plutôt à Paris. On a comme ça des activités... Tout un agenda de travaux, de réunions. Donc on a quelques centaines d'adhérents. On a plusieurs personnes impliquées dans l'action au quotidien. Avec, on parlait du label, mais aussi avec du plaidoyer. Parce que typiquement, d'un côté, il y a les ateliers, puis beaucoup de conseils à donner aussi aux parents, aux familles, etc. Et puis en même temps, on ne veut pas du tout lâcher la question politique et la question des actions collectives qu'on a du mal à faire émerger sur ces questions. Donc, pour qu'il y ait un débat sur la place de la technologie dans nos vies, précisément, on fait des assises de l'attention, on fait des tribunes, on a créé un collectif attention avec d'autres assos qui sont engagés contre la surexposition aux écrans. Tout ça fait qu'on essaie de fédérer une parole de la société civile pour interpeller les politiques, les médias sur ces questions. Donc c'est quelque chose qui...
Et il y a des réactions des politiques en cette période, par exemple, de campagne électorale. Est-ce qu'il y a des réactions des politiques à ces problématiques? Est-ce que vous avez...
Oui, il y en a. Typiquement, les assises dont on parlait, on avait une table ronde avec des représentants des principaux courants qui vont être présents au premier tour. Et chacun devait prendre une des mesures qu'on propose au sein de notre collectif, qui en a une dizaine. Et puis expliquer pourquoi ça leur parlait. Donc ça croise des questions très associées à l'écologie, à la lutte contre la publicité, à la réforme du marché, à la régulation, à la famille. Enfin, c'est tellement large qu'au final, tout le monde peut... Il y a un côté transpartisan là-dedans. Et même si tous n'y vont pas par le même chemin, disons, idéologique, ils se retrouvent quand même sur une série de mesures. Donc l'importance du livre, l'importance des liens familiaux, l'importance de préserver des endroits sans écran, de préserver le rôle de l'école, de lutter contre la publicité, tout ça c'est des thèmes qui aujourd'hui traversent les mouvements politiques, donc intéressent de plus en plus. Et puis de toute façon, c'est une problématique qui va ne faire que grandir, on le voit bien aujourd'hui.
Et qu'est-ce que vous préconisez très concrètement comme mesure? Le bouquin contient pas mal de mesures très très concrètes, de limitation du temps passé sur les écrans en fonction de l'âge.
On a un peu partagé en deux grands thèmes nos mesures. Il y a la protection de l'enfance d'abord, où vraiment là c'est l'urgence, et puis des mesures plus larges à l'échelle de la société d'autre part. Donc la protection de l'enfance, c'est un nouveau message de sensibilisation, beaucoup plus ambitieux que ce qu'il était. On prône le 5-10-15 au lieu du 3-6-9-12 qu'on entend souvent.
C'est-à-dire le 3-6-9-12, c'est pas d'écran avant 3 ans, un truc comme
ça.
Ouais,
et puis à partir de 3 ans, des usages régulés, oui. Et puis comme ça, une façon de côtoyer les écrans très jeunes. Bon, c'est un message qui date maintenant et qui pour nous n'est plus adapté à la réalité, alors que il faudrait vraiment le rendre plus ambitieux. Donc 5-10-15, c'est pas d'écran avant 5 ans, ce qui est la recommandation de l'OMS.
Mais déjà, donc, à 5 ans, ça paraît...
Ouais, ça, mais déjà, ouais, il suffit de se le dire quand même, parce que même si on n'y arrive pas, même s'il y a forcément des écrans qu'on croise, et que si c'est un objectif, clairement, une mesure de recommandation publique, de protection sanitaire des enfants, on y arrivera. Hein. Donc, une heure d'écran par jour après jusqu'à 10 ans, pas de smartphone avant 15 ans. Donc ça, c'est des mesures qui paraissent aujourd'hui, c'est vrai, très fortes, mais c'est à l'échelle du problème qui se pose sur le terrain.
Parce qu'on voit plein de mômes avec des smartphones maintenant, moi j'en vois...
Bien sûr,
l'équipement moyen, c'est autour de 9-10 ans maintenant.
Oh là là.
Et c'est vrai que là, sur ces mesures, par exemple, sur ces messages de prévention de la force publique, on parlait tout à l'heure de l'ambivalence et de l'hypocrisie qu'il peut y avoir au niveau institutionnel. Mais, il y a une initiative qui est venue de l'Assemblée nationale, d'une députée, Caroline Janvier, d'une députée En Marche, qui s'appelle, et ils ont intitulé l'initiative Le mal du siècle. Donc ils appellent la surexposition aux écrans le mal du siècle. On aurait envie de dire que face au mal du siècle, on ne va pas donner un doliprane. Et malheureusement, c'est ça qu'on voit dans la proposition, c'est des micro-mesures d'indication que c'est pas bien les écrans avant 3 ans, etc. Bon non, si c'est un mal du siècle, on peut peut-être éviter de donner des écrans maternels, par exemple, comme c'est l'intention actuelle du gouvernement, et donc suivre les recommandations de l'OMS qui disent pas d'écran avant 5 ans. Donc pour nous, c'est vraiment une base. Ensuite, sur le smartphone... Tout le monde sait qu'une fois qu'un adolescent, quel que soit l'âge, qu'un enfant, un adolescent qui a un smartphone dans les mains, va aller voir des contenus qu'il n'est pas censé voir. Donc c'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose qui n'apporte strictement rien d'un point de vue pédagogique, éducatif. Donc pourquoi encourager l'usage du smartphone avant 15 ans ? Il n'y a rien qui le justifie finalement. Donc voilà, donc, si la puissance publique assumait la réalité du danger et cessait de vouloir à tout prix valoriser ce qui est numérique par essence, eh bien, elle pourrait assumer un discours de prévention.
Mais elle ne le fera pas. Le discours est quand même l'exact opposé. Ouais. Je veux dire, là, il y a une hypocrisie qui est monstrueuse.
Oui, oui. Enfin, mais,
ouais. Compte tenu de l'addiction, aujourd'hui, est-ce que interdire jusqu'à 15 ans peut être envisageable ? Est-ce que ça ne va pas plutôt produire justement l'effet inverse ? C'est-à-dire... Les adultes interdisent, mais nous, on va faire quand même, et on va, etc. Vous voyez le problème. Ouais. Donc, est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt, en fait, d'une question sociétale extrêmement grave qui dépasse largement le cadre d'interdire, ou etc., mais plutôt qui pose des questions fondamentales sur le rapport au politique, le rapport du politique avec la société, l'organisation sociétale du monde, ouais, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait... Comment arrêter ça sans être dans des postures d'interdiction dont on sait très bien que chez l'adolescent, le principe même, c'est justement de transgresser. Donc, voilà. C'est, voyez.
Après, on ne propose pas l'interdiction du smartphone avant 15 ans. Hein. On propose plutôt l'interdiction du smartphone avant 12 ans, à vrai dire. Mm-hmm. C'est en termes de message de prévention. On voudrait que le message de prévention de la force publique recommande de ne pas avoir de smartphone avant 15 ans. De la même manière que pour plein d'autres usages, hein, l'alcool, le tabac, s'il y a une nocivité avérée, on peut recommander qu'il n'y ait pas l'usage. Donc ça, c'était le premier point. Après, sur la question de l'interdiction, bon, là, c'est un grand débat, hein, sur les politiques publiques, mais là, moi, je ne suis pas du tout d'accord pour dire qu'il ne faut pas interdire. C'est-à-dire qu'on interdit de rouler à 300 km/h, on interdit de porter une arme en France, et c'est dans un champ... La liberté s'exerce dans un champ contraint, et on a besoin que la force publique interdise, et elle interdit énormément de choses. Hein, elle nous interdit de casser les écrans, par exemple. Donc, oui, elle pourrait interdire des choses. Elle pourrait interdire la présence d'écrans dans les maternelles, dans les écoles primaires, et elle pourrait interdire la vente de tablettes en dessous de 3 ans, et ce serait positif pour la société.
Mais quand on voit, par exemple, que quand il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, les malheureux 150 citoyens qui avaient proposé d'une manière quand même extrêmement modérée un moratoire sur la 5G, qui se sont fait... Enfin, donc, toutes les mesures ont été refusées à part deux ou trois, et il est hors de question de faire un moratoire sur la 5G. Enfin, c'est...
Non, mais le mouvement est massif, hein, et puis c'est un rouleau compresseur. Nous, on y est opposés tous les jours, donc on le voit bien. Hein. C'est pas pour autant, c'est l'effort qu'on fait dans l'association et dans le livre, c'est de proposer des choses, parce que par où attaquer le problème, en réalité ? Si vous voulez, on n'est pas pour le retour à la bougie, ni pour... ni pour vivre reclus, hors des villes et des relations sociales. On est pour les réformer, pour les modifier, pour les améliorer, pour user des outils dont on dispose. On croit à la démocratie, au débat contradictoire. On croit aux forces des corps intermédiaires. Moi, je bosse dans l'édition, je crois aux libraires, aux éditeurs, aux livres, je crois aux députés. Enfin, il y a quand même des choses sur lesquelles on peut capitaliser pour faire porter notre voix. Il y a des pays où ces choses n'existent pas, et je me demande bien comment on peut faire naître d'autres modes d'évolution et de contestation sur ces questions. Donc, c'est un risque toujours quand on fait des propositions, parce qu'on sait qu'on est attaqué sur les propositions.
Oui, on va vous dire que vous êtes réformiste.
Voilà, c'est ça. Nous, on a une vue, on essaye de faire une synthèse entre des mesures de déconnexion et de régulation. Donc de créer une sorte comme ça de petite boîte à outils dans lesquelles il y a à la fois réformer ce qui existe, à la fois protéger, déconnecter, et que les deux peuvent être menés en parallèle. Donc c'est ce qu'on espère, et être assis sur ces deux objectifs, c'est ambitieux. C'est sûr qu'il y a plein de déconvenus quand on parle de ce qui peut se passer au gouvernement, mais bon, les gouvernements changent, les prises de conscience existent, les actions aussi, donc c'est en ce sens qu'on les produit, qu'on les propose.
Sur ces bonnes paroles, on va rappeler le titre du bouquin, donc La guerre de l'attention, aux éditions de l'Échappée, et l'association Lève les yeux. C'est-à-dire que les gens là qui nous écoutent, que ça peut intéresser, peuvent vous contacter et demander une intervention scolaire ou institutionnel ou entreprise.
Rejoindre, d'adhérer. On a des événements.
Vous avez des financements publics ou c'est que les adhérents
On en a un petit peu. On a des financements pour nos interventions d'éducation populaire et un petit peu par les dons d'adhérents, mais pas beaucoup. C'est clair que pas beaucoup par rapport aux entreprises face auxquelles on essaye d'argumenter. Ouais.
Ok, merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci.
À bientôt, au revoir.
Merci, au revoir.
Merci.